J'ai souvent une pensée pour les jeunes qui veulent investir, rentrer dans le marché immobilier, acheter une première propriété. On sait que c'est une étape qui est importante, non seulement dans la vie financière de quelqu'un, mais dans la vie tout court. Et le premier condo, la première maison, c'est toujours avec beaucoup d'anticipation qu'on l'espère. Et là, c'est de plus en plus difficile, vous le savez, parce que le marché immobilier est en train de surchauffer. On va parler de tout ça immédiatement avec Mélanie Bergeron. Elle est courtière et elle co-anime l'émission Les Dessous de l'immobilier sur nos ondes le dimanche de 11h à midi. Salut Mélanie!
Bonjour Patrick.
Mélanie, il y avait un article dans la presse aujourd'hui qui disait que on fait écho à un sondage qui parle de l'anxiété des premiers acheteurs à cause de l'explosion du prix des résidences. Puis là, ils sont 63% des futurs premiers acheteurs à Montréal qui ont cette anxiété-là. C'est 3 points de pourcentage de plus que l'année passée. Il me semble que, considérant le marché, Mélanie, il me semble que même 63, je suis surpris qu'il ne soit pas plus haut.
C'est pas tant que ça.
Mais non.
Tu as raison. C'est pas tant que ça, 63%, parce qu'écoute, dans toutes les démarches qu'on fait avec les acheteurs, moi, je le vois, c'est anxiogène pour tout le monde. Est-ce qu'on va réussir, premièrement, à faire accepter notre promesse d'achat? Donc ça, c'est la première démarche. C'est trouver une maison qu'on aime, c'est pas évident. Il y a des acheteurs qui achètent un peu, pas par dépit, mais qui vont faire beaucoup de sacrifices sur le choix de la propriété qu'ils vont faire. Donc, elle n'est pas parfaite, mais ils réussissent à l'acheter. Donc, ils sont contents quand même. Donc, on a beaucoup baissé les critères. Mais aussi, ce qui inquiète, c'est la surenchère et de payer trop cher la propriété par rapport à l'évaluation de la banque. Mmh. Et ça, ça peut devenir un problème parce que, Patrick, quand on a une première maison, là, on n'a pas nécessairement 100 000 de mise de fonds à mettre sur une propriété. C'est le cas lors d'une deuxième propriété ou une troisième, mais comme premier achat, souvent les gens ont le 5 % minimum, un prêt assurable avec la SCHL. Donc, beaucoup de premiers acheteurs sont comme ça. Et s'ils font une promesse d'achat, qu'ils vont en surenchère, qu'ils gagnent la promesse d'achat, bien, le problème, c'est est-ce qu'ils vont réussir à se faire financer par la banque? Et ça, c'est un autre enjeu. Exemple, si une propriété est affichée, mettons, on la paye 400 000 $ et la banque l'évalue à 375 000, eh bien, il va falloir combler ce 25 000-là en mise de fonds supplémentaire à la mise de fonds initiale. Donc, ça fait beaucoup de liquidité là pour les acheteurs.
Les premiers acheteurs, écoute, est-ce qu'il arrive que tu leur dises que dans le marché actuel, c'est peut-être une bonne idée d'attendre?
C'est déjà arrivé pour certains parce qu'il y en a, Patrick, qui sont pas prêts psychologiquement à offrir un prix à 100 000 de plus. Là. Puis il y a certaines propriétés où on voit à 20 promesses d'achat, ça finit souvent autour de ça. Et malheureusement, c'est pas nous qui décidons le prix final, mais c'est l'offre et la demande. Puis il y a des acheteurs, d'ailleurs, que je connais, avec qui je magasinais. Eux autres, ils ont décidé, ils habitent chacun chez leurs parents. Puis en plus, ils ont des bons emplois, là. Un qui est policier, l'autre qui travaille en psychologie. Donc, ils ont des bons emplois, mais ils ont consciemment fait le choix. Ils m'ont dit, Mélanie, ça n'a pas d'allure. Moi, je peux mettre 40, 50 000, mais je peux pas aller plus haut. On avait déjà perdu 2-3 maisons parce que ils voulaient pas aller plus haut. Donc, peut-être, je leur ai dit peut-être qu'effectivement, si vous voulez pas suivre le marché actuel, vous devriez attendre parce que c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. C'est pas moi qui décide, mais c'est vraiment la conclusion de beaucoup de propriétés finalement en marché. Là, ça se termine à des prix vraiment supérieurs aux prix affichés.
Mélanie, c'est quoi la proportion, disons, sur 10 propriétés là, dans lesquelles tu es impliquée pour un achat? C'est quoi la proportion des transactions qui vont en surenchère?
9 sur 10.
Ah ouais.
Oui, 9 sur 10. Puis je te dirais que le 1 sur 10, c'est vraiment... puis même encore, écoute, on avait une propriété récemment totalement à rénover, voire même à démolir et à reconstruire un projet. Puis on a eu 4 offres d'achat. Donc, je pense que mon 9 sur 10, et même conservateur, c'est presque 10 sur 10. Là. La surenchère, c'est... Ou sinon, les gens s'ambitionnent. En ce moment, il y a des vendeurs qui affichent leur propriété peut-être un petit peu trop chère. Il se dit, je vais profiter du marché, puis là, il l'affiche à un prix beaucoup trop élevé, ça vaut pas ça. Et là, il n'y a pas de surenchère, mais effectivement, le prix est trop haut de toute façon. Alors ça peut faire retarder justement l'engouement sur une maison, donc les gens peuvent peut-être y voir une opportunité, là. Quand ça fait plus qu'une semaine ou deux que la propriété est affichée, qu'il n'y a pas de promesse d'achat, oui, bien peut-être qu'il y a une opportunité.
Mélanie, il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis je ne l'ai pas vérifié, là, mais maintenant que j'ai une experte au bout du fil, je te pose la question. Pour expliquer en partie, disons, la surchauffe du marché, quelqu'un m'a dit que si on compare à il y a un an et il y a deux ans, il y a une partie de l'explication qui se trouve dans le fait qu'il y a moins de propriétés, beaucoup moins de propriétés disponibles à vendre. C'est-tu vrai?
Oui. Ben oui, c'est vrai. Puis les gens veulent pas bouger depuis la pandémie. Les gens sont beaucoup plus conservateurs. Là, on garde ce qu'on a. On n'ose pas déménager. Il y a beaucoup de gens plus âgés qui n'osent pas vendre leur maison parce qu'ils se disent, regarde, moi, j'irai pas en résidence. Là, tout ce qui est arrivé dans les résidences pour aînés dans les derniers mois, la dernière année, ça a beaucoup affecté cette clientèle-là qui aurait probablement vendu leur maison, ces gens-là qui seraient allés soit dans des immeubles, des appartements, d'autres genres de propriétés qui ont décidé de pas y aller. Ils se sont dit, regarde, je suis encore en forme, je reste chez nous. Donc, il y a ça aussi qui fait en sorte qu'il y a moins d'inventaire. C'est une des raisons, mais les gens qui peuvent ne pas bouger en ce moment restent chez eux et ne vont pas échanger 4-30 sous pour un dollar, comme on dit. Là. Donc, si on n'a pas à déménager en ce moment, les gens vont plutôt rester chez eux. Puis aussi, Patrick, moi, je me souviens, avant le 13 mars de l'année passée, la dernière propriété que j'ai vendue avant la COVID, c'était la folie. C'était déjà la folie. Moi, j'avais eu 70 visites dans une maison. Puis je me souviens, à ce moment-là, wow. C'était la belle époque. Hein? Il y avait à peu près 40 personnes dans la maison. Pas de masse, là. C'était une autre époque. Et puis, on l'a vendue, cette maison-là, 50 000 de plus que le prix affiché. Puis on se disait, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Bien, aujourd'hui, cette même maison-là se vendrait probablement 100 000 de plus que ce qu'on l'a vendu juste avant la pandémie. Donc,
J'allais te dire, Mélanie, là, écoute, puis là, je vais te demander de compter, si tu réponds à cette question-là, tu vas peut-être compter dans ton but de courtière immobilière, là, mais il y a des voix, par exemple, Québec solidaire qui a émis cette idée-là, le ministre Éric Girard n'est pas fermé à l'idée que les enchères, les surenchères soient transparentes, c'est-à-dire que si tu as 6 personnes qui font une offre au-delà du prix, ben tout le monde doit savoir combien à combien s'élèvent les enchères. Est-ce que tu penses que ça calmerait un peu le marché?
Je ne penserais pas parce que je pense que ça, au contraire, ça fait l'effet contraire. Tu sais, quelqu'un offre un prix, l'autre à côté va dire, ben moi, OK, je vais surenchérir encore et ça ne finit plus, sauf s'il y a des balises claires. Tu sais, c'est sûr que si on arrive à baliser ça puis dire, bon, ben écoutez, vous n'avez pas le droit de bonifier plus que une fois ou bon, je sais pas, je lance ça comme ça. Mais sinon, ce serait la folie, c'est un encan, là, je veux dire, public. Là, c'est sûr que les acheteurs, c'est très frustrant de ne pas savoir ce que l'autre a offert, mais en même temps, dans le travail des courtiers, il faut que ce soit confidentiel. Nous, on n'a pas le droit de dévoiler du tout les conditions d'une promesse d'achat. Et en ouvrant les promesses d'achat comme ça, ben là, on dévoile des renseignements confidentiels. Mais le prix, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir et se diraient, ben moi, je vais offrir 100 $ de plus, je vais peut-être l'avoir.
Mais Mélanie, m'excuse de t'interrompre, mais tu sais, c'est confidentiel, mais pas tant que ça. Je veux dire, si l'offre est acceptée, le montant de la transaction va devenir public à un moment donné.
Quand ça va être vendu. Donc, tant que ce n'est pas vendu, on n'a pas le droit de dévoiler. Donc, souvent, exemple, on a 15 promesses d'achat, puis bon, les autres, parfois, nous demandent est-ce que je suis arrivée en deuxième, en cinquième, veulent savoir leur rang, mais en aucun temps, on a le droit de leur dire les conditions. On peut même pas leur dire si l'acheteur qui l'a emporté fait inspecter la maison, par exemple. On n'a pas le droit de donner ces informations-là pour l'instant. Puis, quand c'est vendu, là, on a le droit, c'est public, sur Centris, nous, on a le devoir d'afficher le prix vendu. Donc, après ça, c'est public, mais tout au long d'un processus de promesse d'achat, c'est privé jusqu'à temps que la propriété soit officiellement vendue.
Bon week-end, Mélanie. Merci.
Merci. À la prochaine.
Salut, Mélanie Bergeron, courtière immobilière et aussi co-animatrice sur nos ondes de l'émission Les Dessous de l'immobilier, c'est le dimanche, dès 11h.